une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 11 septembre 1973, voilà exactement 50 ans, au Chili, le gouvernement d'unité populaire est renversé par un coup d'état militaire dans des conditions dramatiques. Une issue tragique pour le président de la République, Salvador Allende, qui y laisse la vie. 3 ans plus tôt, le 4 septembre 1970, Salvador Allende a été élu à la présidence de la République. L'élection a été validée par le Parlement grâce au soutien de la démocratie chrétienne. Pour la première fois, un marxiste accédait par les urnes à la tête d'un pays d'Amérique latine. Le nouveau président s'appuie sur une coalition hétérogène qui va du centre réformiste à l'extrême gauche révolutionnaire en passant par les communistes. Le Parti socialiste de Salvador Allende se situe lui-même plus à gauche que le Parti communiste et aspire à rien moins qu'à la rupture avec le capitalisme. Ses mesures sociales, nationalisation des mines de cuivre et des principales entreprises du pays, réforme agraire, blocage des prix, augmentation des salaires, tantôt trop modérées pour les uns, tantôt trop radicales pour les autres, ne font jamais l'unanimité dans son propre camp, mais exaspèrent surtout les classes dominantes chiliennes et les grandes entreprises américaines. Le gouvernement des États-Unis ne peut laisser se développer une nouvelle expérience socialiste et craint la réédition d'un coup d'État pro-soviétique à la façon de Fidel Castro à Cuba 10 ans plus tôt. Salvador Allende doit faire face à une opposition de droite majoritaire au Parlement. Elle est soutenue en sous-main par les agents secrets de la CIA américaine et financée par les multinationales implantées dans le pays, au premier rang desquelles figure le trust de télécom ITT. Pour faire face aux menaces qui l'assaillent de toutes parts, Salvador Allende appelle les militaires à son secours. Se méfiant à juste titre de l'armée de l'air et de la marine, aux traditions aristocratiques, il se repose sur l'armée de terre, légitimiste et au recrutement plus populaire. Il lui donne un nouveau commandant en chef en la personne de Carlos Prat. Celui-ci nomme à ses côtés comme chef d'état-major un général falot de 58 ans, peu suspect d'activisme, issu d'un milieu populaire incertain. Augusto Pinochet. En novembre 1972, Carlos Prat devient chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur, tandis que Pinochet le remplace à la tête de l'armée de terre. La situation économique ne fait qu'empirer, les prix flambent et la production alimentaire s'effondre. Le pays est bientôt paralysé par des grèves à répétition, dont celle des camionneurs. Les ménagères descendent dans la rue, les commerçants, puis les médecins menacent de faire grève. La pénurie organisée et la paralysie de la société doivent faire basculer la classe moyenne dans le camp des opposants à Allende.
Mes camarades, je dis qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il ne faut pas laisser faire. Il y a l'armée qui se sert de la loi sur le contrôle des armes pour démanteler les organisations de gauche en se gardant bien de toucher aux fascistes. Il y a les camionneurs en grève et les commerçants qui s'y mettent aussi. Mais il y a pire, camarades, et vous le savez. Il y a les médecins qui refusent de soigner et ça, c'est une honte. Je dis que c'est un crime. Il faut empêcher ça, camarades. Maintenant, c'est plus une histoire d'élection, c'est la guerre. Ils veulent la guerre.
Le président ne voit plus d'autre issue que dans un référendum populaire, mais il sera pris de vitesse par la rébellion militaire. Les commandants de l'armée de l'air et de la marine ont décidé en effet de mettre un terme, par la force, à l'expérience socialiste. Non sans peine, le 9 septembre, ils persuadent le général Pinochet de se joindre à la junte. C'est ainsi que le matin du 11 septembre 1973, des unités de la marine neutralisent le port de Valparaiso. Peu après, à Santiago du Chili, l'armée de terre, sur les ordres de Pinochet, annonce qu'elle marche, je cite, « vers les bâtiments officiels pour en déloger les gouvernants devenus illégitimes et mettre fin au chaos ». Salvador Allende s'enferme avec une poignée de fidèles dans le palais présidentiel. Il demande à ses défenseurs de quitter les lieux et refuse les offres de la junte de quitter le pays. Il dirigera même la défense du palais pendant de longues heures et enregistrera une allocution désespérée à la radio.
Je ne renoncerai pas. Je paierai de ma vie ma loyauté au peuple. Je vous dis
que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente.
que j'ai la certitude que la graine que l'on a confiée au peuple chilien ne pourra pas être détruite définitivement.
Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza.
Ils ont la force. Ils pourront nous asservir, mais n'éviteront pas les procès sociaux, ni avec le crime, ni avec la force.
La historia es nuestra, y la hacen los pueblos.
L'histoire nous appartient, et c'est le peuple qui l'a fait.
Viva Chile, viva el pueblo. Vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas vain.
Vers midi, l'aviation bombarde le palais présidentiel de la Moneda et les soldats l'investissent. Le putsch militaire est un succès. Le président démocratiquement élu du Chili est mort ce 11 septembre 1973. Il se serait suicidé suivant la junte militaire. Il est plus vraisemblablement mort, les armes à la main. À la suite du coup d'État, la junte militaire prononça la dissolution du Congrès national, des conseils municipaux, des syndicats et des partis politiques. La liberté de la presse fut abolie, le couvre-feu instauré. Toute forme de littérature rattachée au socialisme fut interdite et plusieurs dizaines de milliers de personnes suspectes de sympathie marxiste sont raflées et concentrées dans le sinistre stade de Santiago. Les opposants au régime sont arrêtés, exilés, torturés ou exécutés de différentes façons comme d'être lâchés du haut d'un avion dans l'océan. Ce déchaînement de violence sadique vaudra un quart de siècle plus tard une inculpation de crimes contre l'humanité à Augusto Pinochet. Le Chili a payé un lourd tribut à la transformation sociale et à la liberté. Il restera dans l'histoire comme le symbole d'une expérience socialiste débutée démocratiquement et renversée militairement dans le sang. Cette histoire tragique montre qu'on ne défie pas impunément les intérêts américains. L'armée chilienne, soutenue par la presse, l'organisation fasciste Patrie et Liberté, le Parti National et les États-Unis ont remis le peuple dans le droit chemin, disent-ils. Mais l'expérience Allende a dévoilé aussi le vrai visage de la finance internationale qui se moque des processus démocratiques et utilise l'institution militaire quand nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ce même 11 septembre, mais en 2001, les États-Unis sont victimes de 4 attentats suicides islamistes, mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre.